Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumani.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons des questions autour du dialogue national inclusif et des invités pour répondre à ces questions. Pas mal de questions sont posées aujourd'hui, notamment pourquoi un dialogue national inclusif? Comment va-t-il s'organiser? Quel sera le contenu donné à ce dialogue national inclusif? Qui seront les acteurs et à quoi faut-il s'attendre comme résultat? Et donc, comme invité, nous avons Adama Samasekou, ancien ministre, porte-parole des participants à l'atelier d'élaboration des termes de référence du dialogue national inclusif, Ibrahima Ikassa Maïga de l'URD, membre donc de l'opposition, Souleymane Dé, juriste, professeur à l'université de Bamako. Je rappelle que nos tentatives pour compter un représentant de la majorité sur ce plateau sont restées vaines. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Alors, on parle d'un dialogue politique inclusif. Aujourd'hui, on entend un dialogue national inclusif. Dans quel contexte, Souleymane Dé, ce dialogue national inclusif s'organise au Mali?
D'accord. Permettez-moi encore une fois de plus de remercier vos auditeurs et toujours de vous dire encore merci pour la confiance que vous nous portez à chaque fois que vous souhaitez que l'université se prononce sur les grandes questions de la nation. Nous, nous pensons en tant qu'universitaires qu'aujourd'hui, le Mali était carrément au mur, dos au mur, il n'y avait pas d'autre alternative, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait remettre la parole entre les Maliens et remettre la parole aux Maliens. Et pour des raisons très simples, le pays était devenu ingouvernable. Et vous le savez très bien que nous avons dit et décrié que le consensus politique des ATT à la confusion constitutionnelle d'Ibeka, le Mali ne savait plus où aller. Vous le voyez vous-même, on a connu 6 premiers ministres et quand on parle de confusion constitutionnelle, c'est surtout ça. Le parti qui gagne les élections, ce n'est pas ce parti qui est à la primature. Et sur les 6 premiers ministres, c'est un seul qui était du RPM. Et c'est une confusion qu'on ne comprend pas. Et on ne peut pas comprendre non plus que le parti, le premier ministre même de la majorité puisse subir la pression de son propre clan pour le faire partir par le biais d'une motion de censure. Et vous avez vu que c'est par là d'ailleurs qu'on peut évoquer l'accord politique de gouvernance. S'il y a accord politique de gouvernance, c'est un aveu d'impuissance. C'est parce que le parti qui a gagné les élections, la majorité qui était censée gouverner le Mali, n'a plus les moyens de le faire. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a ouvert, bien sûr, la gestion du pays à d'autres formations politiques, en tout cas, à chercher à apaiser. La grogne sociale qui s'en est suivie, vous le savez tous, toutes les corporations du Mali se sont levées, tout le monde demande un meilleur cadre de vie. On n'a jamais enregistré autant de grèves au Mali que ces derniers temps. On peut situer aujourd'hui, on n'a même pas besoin de s'étendre là-dessus, la crise sécuritaire au Mali fait qu'aujourd'hui également, il y a un problème. La reconstruction et le redéploiement de l'administration. Parce qu'il faut le dire que cette question de souveraineté dont on parle, elle est évolutive de et dans l'État aujourd'hui. On ne peut pas dire que le Mali est pleinement souverain. Parce que la plénitude de compétences du pouvoir n'est pas sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas dire comme c'est l'air. Le Mali est présent seulement sur un tiers de son territoire. Même quand nous prenons les régions du Nord, c'est dans les capitales régionales que l'État se retrouve. Pas, bien sûr, dans les communes, pas dans les villages. Aussi, vous avez la difficile mise en œuvre de l'accord. Et je l'ai dit ici, il faudra peut-être encore une fois de plus qu'on se mette d'accord. Ce n'est pas l'accord d'Alger. Tout le monde s'accorde à dire accord d'Alger. C'est l'accord de Bamako. L'accord prend toujours le nom de la ville dans laquelle il a été signé. C'est l'accord issu du processus d'Alger, mais c'est l'accord de Bamako parce qu'il a été signé. Et puis vous avez vu toutes les multiples tentatives de révision de la Constitution sous le même mandat, en tout cas sous la même présidence de Ibeka. C'est la deuxième tentative qu'on va mettre en œuvre pour réviser la Constitution. Et on n'y arrive pas. Donc toutes ces questions réunies prouvent à suffisance que nous sommes un État en crise et qu'aujourd'hui, il faudra à un moment donné donner la parole aux Maliens et demander aux véritables acteurs qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise. Je pense que c'est dans ce contexte-là que nous partons vers un dialogue national inclusif. D'ailleurs, cette fois-ci, c'est bien qu'on appelle dialogue national inclusif parce que dialogue politique...
Et on va y revenir tout de suite. Et donc, des problèmes auxquels le dialogue national inclusif devrait trouver des solutions ou résoudre même ce problème. Alors, Adama Samasekou, vous êtes porte-parole des participants à l'atelier du dialogue national inclusif. Aujourd'hui, comment ce dialogue national inclusif va s'organiser?
Je voudrais d'abord dire bonsoir à toutes vos auditrices, à tous vos auditeurs. Et vous remercier de cette invitation à participer à votre grand dialogue sur une question essentielle aujourd'hui pour notre pays, qui entame un processus historique. En effet, le pays va mal. Bon, les raisons, les explications peuvent être diverses. Je ne vais pas m'engager dans ce débat. Toujours est-il qu'il est heureux que nous puissions avoir l'occasion, à travers un grand débat national, d'examiner toutes les questions auxquelles le pays est confronté, tous les défis auxquels le pays est confronté, et de les examiner librement, sans tabou, avec le souci unique de rassembler tous les Maliens autour d'une question qui aujourd'hui l'assaille. Et en réalité, pendant les 3 jours où nous avons travaillé sur le projet de terme de référence du dialogue, l'ensemble des participants a eu l'occasion de s'exprimer librement et d'évoquer toutes leurs préoccupations. Nous avons donc convenu, à l'issue de ces 3 jours, de termes de référence aujourd'hui qui vont donner le cadre dans lequel le dialogue va se situer, tant du point de vue des thématiques que des objectifs et que des moyens de suivi et évaluation de ce processus qui va rassembler toutes les Maliennes et tous les Maliens.
Justement, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ces termes de référence ?
Écoutez, la question essentielle, c'est celle de la structuration même du document qui a été rendu public. Le projet est public. Il y a au départ la question du contexte qui a amené un débat très intéressant sur la perception de la situation actuelle du pays. Donc les questions liées au plan sécuritaire, au plan politique et social, au plan économique, au plan de la gouvernance, au plan judiciaire, au plan socio-culturel, au plan socio-religieux, toutes ces questions ont été abordées par les participants en dégageant pour chaque domaine les mots-clés qui doivent décrire la situation que nous vivons, au plan aussi climatique et environnemental.
On va y revenir, Monsieur Samasekou. Alors, Ibrahim Ikassa Maïga, quelle est la position de l'URD, de l'opposition concernant ce dialogue national inclusif ?
Merci bien, Monsieur Touré. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le ministre Samasekou, à mon collègue Ousmane Dé, à tous les auditeurs et auditrices de Studio Tamani. La position de l'URD est claire et je pense qu'elle a été déclinée au fil de la presse et à travers des correspondances et des mises au point suffisamment claires. L'URD n'étant pas seul, nous avions avec des partenaires de la société politique, de la société civile au sein du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD. Et je pense que le dernier exemple était ce courrier du président du FSD, en la personne de l'honorable Soumaïla Cissé aussi, président de l'URD, adressé au triumvirat, pour fixer, après moute péripétie, fixer les paramètres et conditionnalités de la participation de notre regroupement à ce dialogue. Nous avons pris quand même de toute bonne foi, okay, pour montrer notre bonne foi, okay, notre responsabilité pour aller donner nos vues, okay, à cet atelier-là, pour que les participants voient la pertinence de notre position. Okay. Et ces vues ont été déclinées et je pense que si ces paramètres sont mis en œuvre, ça garantirait, okay, l'efficience de ce dialogue et les solutions évidentes de sortie de crise. Et je pense que le premier paramètre, c'était dit, c'est un dialogue national. Et j'ai été un peu offusqué de voir que la majorité politique qui étaient représentés au sein de ce débat et étaient là encore à tirer sur la sémantique dialogue politique inclusif, dialogue national inclusif. Nous avons dit c'est national. Si quelqu'un devrait se réserver, c'est bien l'opposition qui a exigé, obtenu ce dialogue politique.
C'est nous qui devions dire. Il y a Mamari Djankumba qui pose la question sur Facebook. L'opposition a demandé ce débat, ce dialogue. Pourquoi l'opposition est aujourd'hui contre ce dialogue?
Nous ne sommes pas contre. Nous sommes contre la façon d'amener ces dialogues, contre la façon de travestir, excusez-moi de ce thème.
Qu'est-ce qui vous dérange dans cette façon?
J'en viens. Je disais tantôt que si quelqu'un devrait s'en offusquer, c'est bien nous, en disant non, ne diluez pas nos problèmes politiques parce que tout est parti aussi de la crise post-électorale. Et la crise s'étant crispée, le chef de l'État, Ibeka, a dû appeler son challenger, Soumaila, pour discuter. Donc ça, c'était une sorte de dialogue politique de haut niveau qui devrait redresser dans l'arène politique, réunir tous les acteurs politiques pour parler. Mais vu que les remous, la grogne sociale, Souleymane l'a évoqué, les problèmes avec les religieux, qui en partie ont fait partir le gouvernement de l'époque, et tout cela mis ensemble, nous avons dit que ce serait bien de discuter avec l'ensemble de la population malienne pour trouver les solutions, y compris de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, alors là, on a dit qu'il faut y aller, mais franchement. Mais nous avons vu qu'il y a beaucoup de frioritures. Déjà, l'inclusivité exigée devrait être de bout en bout appliquée. Mais cela n'est pas été déjà dans la désignation des personnalités devant conduire ce dialogue. Ça n'a pas été. Nous avons tant qu'à faire, puisque leur personne ne nous pose pas de problème. Allons à l'essentiel. Mais ensuite, vous avez vu ces deux dernières semaines que ceux qui n'étaient pas désignés pour conduire ce dialogue s'y sont mêlés. Le ministère de l'administration territoriale, à travers le préfet de Kati, par exemple, qui a fait une lettre circulaire pour réunir tout le monde, venez, parlons de ce dialogue. Le ministère chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, qui convie dans ce sens. Ensuite, le comité d'organisation même convie les gens. Mais on a dit, on ne comprend pas. Si on dit inclusive, ce serait de bout en bout, mettez tout le monde ensemble pour décider de la feuille de route de ce dialogue. Cela ne l'a pas été, ça nous a offusqué. Maintenant, nous avons dit tant qu'à faire. Ce qui compte, c'est le fond. Maintenant, problème de fond, ce dialogue doit être inclusif. Cela est obtenu de tous. Ensuite, il faut qu'on juge de l'utilité et de l'opportunité des participants, leur représentativité. Il ne faudrait pas qu'on puisse venir dilier la masse représentative avec justement des gens qui ne sont pas nécessairement concernés, qui sont aux ordres et qui viennent défendre des positions urbi torbi au nom d'un régime ou au nom d'un
justement,
camp politique.
Et on va y revenir tout de suite. Et je rappelle que nos tentatives pour compter un représentant de la majorité sur ce plateau sont restées vaines. Souleymane Dé, quelle compréhension avez-vous de l'inclusivité dont on parle par rapport à ce dialogue national?
Vous savez, nous sommes en retrait par rapport à ce dialogue national. Et je ne suis pas sûr que tous les Maliens soient concernés par rapport à ce dialogue national. Il y a un problème.
Vous, c'est qui?
Moi, par exemple, je suis l'université.
D'accord.
Et moi, je n'ai pas senti les universitaires concernés par cette approche. Et ce que je veux dire ici, dialogue national, cela paraît peut-être l'appellation consensuel. Parce que dialogue politique, ça nous posait à nous-mêmes, en tant qu'universitaires, un problème. Parce que les gens avaient l'impression que c'était un rendez-vous unique entre politiques. Vous savez très bien aujourd'hui qu'au Mali, les partis politiques, je ne suis pas sûr s'ils sont représentatifs du peuple malien. Vous regardez seulement les statistiques. Lors des dernières élections, sur 8 millions, c'est 2 millions d'électeurs, par exemple, qui se sont déplacés. Les partis politiques peinent aujourd'hui à mobiliser leurs militants derrière eux. Je ne suis pas sûr qu'ils soient représentatifs du peuple malien. La société civile, je ne suis pas non plus sûr qu'elle soit représentative du peuple malien. Parce que vous le savez très bien, que la confusion a atteint un tel point que vous avez des acteurs qui sont à la fois société civile et à la fois ils sont dans les partis politiques. Donc, je ne suis pas sûr. Cette question de légitimité et de représentativité, comme le collègue Ikassa vient de dire, pose un énorme problème. Alors, il y a des Maliens qui ne sont ni dans les partis politiques et qui ne se sentent pas concernés par ces organisations de la société civile. Où est-ce qu'on les met? C'est pour cette raison que nous avons dit que dans un pays où la légitimité est aujourd'hui à un seul niveau, seulement le président de la République a un mandat légitime. Après le président de la République, vous le savez, que l'Assemblée nationale va jouer un rôle extrêmement important. Parce qu'après ce dialogue, il va falloir mettre en œuvre, en tout cas, les recommandations, traduire les recommandations en loi essentielle. Mmh. Elles seront adoptées par une Assemblée nationale qui, pour l'instant, connaît des problèmes de légitimité depuis la fin du mandat, même si nous considérons que le mandat, la prorogation est légale. Mmh. Ça, c'est un autre débat. Donc, vous avez le Haut Conseil des collectivités. Le mandat est fini. À tous les niveaux, les mandats sont finis dans ces pays-là, à l'exception du président de la République. Donc, oui, il faut asseoir ce dialogue. Mais comme il l'a dit, il faudra trouver toutes les garanties pour que ce dialogue soit inclusif et qu'on n'occulte pas et qu'on n'oublie pas les moyens.
On va poser ce problème de légitimité et de représentativité des acteurs qui semble être un problème. Monsieur Samasekou, qu'en dites-vous?
Oh, écoutez, en réalité, la question globale de la légitimité est une question complexe. Aujourd'hui, il est certain que, comme je l'ai dit, le Mali est un grand corps malade. Toutes les parties, toutes les couches du Mali souffrent de ce que j'appelle la dérive comportementale. La perte de repère, aujourd'hui, nous fait observer des comportements inacceptables à tous les niveaux. Donc, il est important que ce débat soit l'occasion justement de recentrer les choses autour de notre pays. Les différents acteurs concernés seront là tous autour de la table. Et dans les termes de référence qui ont été validés, la question du rôle, de la place de la société civile, des syndicats, des ONG, des partis politiques, toutes ces questions feront l'objet de débats, j'espère, francs et sincères, afin que nous puissions, au sortir de ce débat, redonner le rôle à chacune des composantes de notre pays.
Alors, vous l'avez dit, M. Samasekou, le Mali est un grand corps malade. Et donc, pour le soigner, il faudrait le diagnostiquer, consulter toutes les parties et pouvoir trouver des médicaments pour le soigner. Alors, aujourd'hui, s'il y a des couches qui pensent ne pas être impliquées ou suffisamment impliquées, comme le dit tout de suite Souleymane Dé, les universitaires, comme une partie de la société civile, comme l'opposition qui n'est pas d'accord, est-ce que vous pensez que les résultats attendus au cours de ce dialogue pourront être atteints?
Ah, mais attends, attention. Tout le monde sera consulté. L'opposition incluse. En réalité, il faut que tout le monde accepte de participer. C'est ça la question. C'est pour ça que moi, au nom des participants, j'ai lancé un appel à la fin des travaux en disant que nous sommes dans une situation où tous les patriotes doivent se retrouver autour de ce grand corps malade. Maintenant, il y a une question d'accessibilité pour pouvoir donner sa parole. C'est pour cette raison que les facilitateurs ont imaginé d'exploiter tout ce qui est à notre possibilité pour assurer cette participation. C'est, de ce point de vue, il y aura un portail qui va être mis en place par la GTIC et chacune et chacun aura l'occasion de participer à ce dialogue parce que des espaces de concertation publique vont être mis en route afin que des groupes de prise de parole puissent s'organiser, chacun là où il sera, sans se déplacer, en utilisant les téléphones, les ordinateurs, l'Internet, d'une manière générale. Et donc, d'ailleurs, nous avons convenu de donner des appellations spécifiques tirées de nos langues nationales et de nos traditions africaines. C'est ainsi qu'en Bamanankan, on pourra parler de Diakafoblo, en Fulfulde, on pourra parler de Batir de Djama, en Songhai, on pourra parler de Boire Batu. En Dogon, évidemment, il y a la tradition du Toguna.
Et dans les zones où l'État n'est pas suffisamment présent, par exemple au nord du Mali, par exemple au centre du Mali, comment ces populations vont être impliquées?
Mais c'est ce que je viens de dire. Chaque, chaque, beaucoup de endroits du Mali, sinon la plupart, sont couverts par des téléphones portables, par des ordinateurs. Donc les gens auront la possibilité de le faire. Il suffit qu'elles sachent, que les personnes sachent que c'est possible. Et donc c'est une façon d'impliquer tout le monde. Évidemment, l'exhaustivité n'est pas possible nulle part. On ne peut atteindre l'exhaustivité. On fera le maximum pour que la majorité de ceux qui souhaitent prendre la parole au cours de ce débat puisse être entendu.
Est-ce que ce processus
au niveau et dans les universités, par exemple, les universités, c'est tout facile, c'est très facile d'organiser des groupes de prise de parole dans les universités. Les gens là-bas sont beaucoup plus familiers avec les technologies d'information et de la communication. Voilà.
Est-ce que l'approche est convaincante pour vous?
Nous sommes un peu réservés. Parce que l'exclusivité suppose que tous les Maliens, et le caractère national l'est tout autant, pour dire qu'on doit faire l'effort de rapprocher les points de vue, de faire venir. Mais déjà aujourd'hui, il y a ostentatoirement, il y a des parties prenantes de la vie nationale qui ont déclaré ne pas participer. Le RPDM en fait partie, le SADI, Sénas Faso RR en premier d'ailleurs, et Anko Malidron avec Farhan Kabili, l'ADEMA Association, et beaucoup d'acteurs majeurs du Mali. Et je pense que l'effort doit être fait pour aller à ces gens. L'effort doit être fait pour prendre en compte les désidératas des uns et des autres. Parce que les raisons que j'ai vues être défendues à l'atelier sont des mini-choses que plutôt la majorité au pouvoir devrait plutôt faire large ouverture pour accepter quand même des paramètres comme par exemple le caractère exécutoire et contraignant des résolutions qui seront issues de ce dialogue. C'est très important que les gens viennent dire que ce ne serait pas une grande messe comme la conférence d'entente nationale que nous avons vécue qui a fait flop puisque des résolutions importantes ont été prises pour sortir de la crise, mais ça a été mis sous le boisseau. On n'en parle même plus. Les gens ont cet arrière-goût amer que les choses au Mali ne se font pas comme c'est déclaré officiellement.
Mais dans ce contexte d'insécurité au Mali, est-ce que vous-même vous pensez qu'il est même possible d'organiser un dialogue national qui va être inclusif où tous les Maliens vont se sentir représentés?
Tant qu'à faire, c'est possible de le faire. Il s'agit de mettre les gens en confiance. OK? Dans les zones où l'État n'est pas présent, les gens vivent, continuent à vivre et avec leur mode. Il s'agit de les mettre en confiance pour leur dire parlez de vos problèmes, venez vous retrouver au niveau des communes, au niveau des cercles pour en parler et envoyer des représentants aux assises nationales.
Et qui va garantir leur sécurité?
Mais là-bas, en fait, c'est des gens qui vivent en symbiose avec leur environnement. Tant qu'à faire, ils trouvent tout. Ils ont leur capacité d'adaptation. Ça s'est passé à Gao, je pense en 2012, à Tombouctou et autres. Les gens étaient là, mais arrivent à joindre le niveau central ici et à répartir. Ça se fait parce que les gens, ils sont chez eux. Ils peuvent discuter de leurs problèmes, mais il faut certainement les mettre en confiance. Mais déjà qu'il y en a qui sont à Bamako, ici, à Ségou, ou autres, j'ai cité des organisations politiques et de la société civile, mais qui ne se sentent pas en confiance de participer, même s'ils sont plus ou moins en sécurité. Donc c'est la confiance qui est le maître mot dans cette affaire. Et d'ores déjà, il faut qu'on garantisse l'application effective des résolutions et le suivi. Et le suivi par un organe ou en tout cas des personnalités ou un organe paritaire indépendant qui peut dire librement ça doit être mis en œuvre, telle personne est responsabilité, telle institution est responsabilisée, donc il faut mettre ça en œuvre et pouvoir produire ces rapports en mi-temps pour que les autres parties prenantes
même
aient
si
confiance.
Ces institutions ne sont plus légitime comme le pense Souleymane.
Il s'agit de composer justement un nouvel organe où les uns et les autres, les forces vives de la nation, se reconnaîtront dedans et auront confiance dans la mise en œuvre. Maintenant, on n'a pas confiance à l'administration. Déjà, on a dit d'arrêter d'évoquer dans ces termes de référence que c'est les représentants de l'administration qui vont présider les assises locales. On a dit non. Il y a une
aujourd'hui, est-ce que les Maliens ont confiance en quelque chose, que ce soit les institutions
entre les administrés et l'administration, c'est clair, on n'a pas compris. Parce qu'ils ont, ils pourront travestir, comme je l'ai dit tantôt, okay, les résolutions locales qui ont été faites. S'ils doivent synthétiser dans des rapports et les transmettre au sommet, d'accord, ils vont faire du zèle et mettre autre chose que ce qui a été convenu en
septembre. Souleymane Diaye, y a-t-il un géopolitique caché derrière ce dialogue, ce processus de dialogue national inclusif?
Écoutez, je pense encore une fois de plus que lorsqu'on décide d'aller vers un dialogue national inclusif, il faudra instaurer la confiance entre les acteurs. Il faudra que ce dialogue soit sincère. Il faudra bien sûr cultiver la transparence dans ce dialogue-là. Je l'ai dit dans mes propos, le pays aujourd'hui est devenu ingouvernable. Vous avez écouté hier le Premier ministre à la télé qui dit qu'il n'a pas fait de DPG, c'est-à-dire des déclarations de politique générale, parce qu'il attend les conclusions de ce dialogue politique national. Une fois que cela est dit, n'ayons plus peur des mots. Nous sommes en quelque sorte dans une transition. C'est ce que je vous ai toujours dit. Le pays a besoin de sortir de la crise. Et aujourd'hui, le gouvernement même ne se hasarde pas à mettre en avant certaines politiques parce que il n'est pas sûr que cette politique soit réellement celle que le peuple malien veut. Voilà pourquoi le Premier ministre attend les conclusions de ce dialogue politique national. Alors du coup, j'ai dit, si les partis politiques parlent au nom du peuple malien, si les groupes armés parlent au nom du peuple malien, si la société civile parle au nom du peuple malien, alors laissez ce peuple malien décider de ce qu'on voudra que le Mali soit demain et de comment on voudra que le Mali soit organisé. C'est pour cette raison que je viens sur cette question de légitimité, parce que tout n'est pas qu'illégitime au Mali. Il faudra que ces débats soient conduits par des personnalités dignes de confiance.
Est-ce que les personnes qui conduisent déjà le débat sont dignes de confiance?
Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas ce jugement à porter. Mais une chose est vraie et qui se murmure, c'est que ceux qui sont en train de piloter ces dialogues politiques nationaux sont tous comptables de ce qu'on vit aujourd'hui, de la gouvernance dans ces pays. Les acteurs du mouvement démocratique sont comptables de la déconfiture aujourd'hui de notre État. Alors, on va avoir cette présomption de confiance. On va les laisser peut-être gouverner. Comme il a dit, il ne faut pas s'arrêter aux personnes. Il faut aller sur des questions de fond. Et les questions de fond, encore une fois de plus, j'ai dit, je ne fais pas la promotion de ma structure. J'ai dit, il faut faire confiance à l'université. Il faut demander à l'université de piloter.
Monsieur Samasekou l'a dit, que les universitaires vont être impliqués.
Ce que monsieur le ministre dit ne nous satisfait pas. On n'est pas quand même des gens à qui on va venir un matin dire « Venez, donnez-nous votre programme de vie ». Non.
Comment voulez-vous être impliqué?
On aurait souhaité que des journées de réflexion soient organisées entre les universitaires et que les recommandations et les résolutions issues de ces journées puissent servir aux politiques. Parce que le problème du Mali, c'est surtout ça. Vous avez vu les débats, je ne vais pas citer des scènes concurrentes. La dernière fois à la télé, on a tous entendu la confusion terrible qu'on était en train de faire entre la régionalisation et le régionalisme. Donc, le politique n'est pas en mesure de connaître à fond ou dans le fond la signification de certains termes juridiques. La régionalisation n'a rien à voir avec le régionalisme. Et il y a tout de confusion de la sorte. Donc, encore une fois, je reviens, qu'il y a des maires dans ces pays qui sont élus. Il faut peut-être faire porter les débats par les élus, les maires, dans leurs communes respectives. Mais encore une fois de plus, il faudra amener des gens qui ne sont ni de l'opposition, ni de la majorité, mais des Maliens, je dis bien. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'université, parce que je pense que le rôle de l'université, c'est de mûrir des réflexions, c'est de trouver des paramètres, en tout cas des propositions de sortie de crise, et c'est d'aider dans la compréhension des concepts. Parce que j'ai bien peur, encore une fois de plus, que le dialogue ne tue le dialogue. Il y a eu trop de forats au Mali. Trop de concertations au Mali. Mais où sont passées les différentes résolutions de ces concertations? On ne sait pas. Et entre-temps, tous les Maliens se plaignent. Encore une fois de plus, on a peur qu'à l'issue de ces grands dialogues nationaux, que les résolutions ne soient pas respectées. Il ne faudra pas téléguider le débat. Nous avons dit tantôt qu'on a eu des
tentatives. Le numérique dont parlait Adama Samasekou.
Tous les Maliens n'ont pas accès au numérique. D'ailleurs, au Mali, ici, il y a des zones qui n'ont même pas accès à la téléphonie. À plus forte raison. Allez-y demander à l'AGFO. L'AGFO se bat aujourd'hui pour réduire la fracture numérique dans ce pays. Ce que je veux dire, et que je mets l'accent sur un point, il ne faudra pas que le débat soit téléguidé. Encore une fois de plus.
Téléguidé par
quoi? Téléguidé. J'ai dit, il ne faudra pas que les uns et les autres glissent leur ambition politique ou autre dans ces débats-là. Moi, je le dis, lorsqu'on n'arrive pas à modifier une constitution une fois, deux fois, trois fois, il y a un problème. Alors, encore une fois de plus, il ne faudra pas que tout soit mis dans le but d'aller vers une révision constitutionnelle. Il faut que tout soit mis dans le but d'atteindre des réformes effectives. Si ces réformes doivent passer par une refondation, il ne faudra pas biaiser les débats. Il faut laisser les Maliens décider si on veut passer d'une troisième république à
une quatrième république. Il ne faudra pas que tout soit mis en œuvre pour seulement, bien sûr, atteindre un objectif politique caché.
D'accord. Voilà. Adama Samasekou, est-ce que vous pensez que ceux qui sont contre ou ceux qui estiment ne pas participer aujourd'hui à ce dialogue national politique, leurs raisons sont valables ou est-ce que c'est un jeu politique?
Oui, mais moi, je voudrais d'abord dire que je ne suis pas du tout content de la manière dont vous conduisez les débats, parce que vous laissez des interventions longues se faire avec des éléments qui sont inacceptables dans l'entendement que nous avons des choses, et la réactivité que je voudrais avoir, elle doit être respectée. Je voudrais dire...
Vous avez la parole et la liberté d'expression, elle est respectée ici. Allez-y, M. Samasekou.
Pardon. J'ai demandé à intervenir, parce que c'est un débat. Mm. Si quelqu'un intervient, je demande à intervenir pour arrêter, parce que s'il y a une longue intervention, comment voulez-vous que je reprenne point par
point? C'est l'occasion qui vous est donnée, M. le ministre. Allez-y.
Oui, mais c'est pas normal, ça. Mm. Je voudrais vraiment interpeller mon frère Ibrahim Maïga. Il était dans l'atelier. Mieux, il a été un des rapporteurs, il a été le principal rapporteur du groupe 1. Et Ibrahim, vous savez tout ce qu'on a discuté au sein de cet atelier. Vous savez que la question de l'inclusivité a été débattue. La question du rôle de l'administration a été débattue. Les participants ont demandé que l'administration ne soit pas la structure qui fasse la synthèse des débats et que ce soit des personnalités indépendantes, neutres. La société civile, les structures, il y a au moins une dimension d'implication de chaque acteur principal afin que le contrôle mutuel soit assuré. Vous savez aussi qu'on a dit que le comité de suivi qui doit être mis en place doit être indépendant. Mieux, le Premier ministre, même dans son discours de clôture, a garanti l'indépendance de ce comité de suivi des conclusions qui vont sortir de ce débat. Donc, toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait de la transparence dans ce processus. Donc aujourd'hui, je crois que les Maliens sont vraiment enclins, la plupart du temps, à condamner sans participer. Et je crois qu'il est important, personne n'empêche personne de participer à ce débat-là. Par contre, il peut y avoir des raisons objectives qui empêchent les gens de participer. On essaie de trouver les formules pour éviter cela. Donc, si des partis politiques aujourd'hui disent qu'ils ne participent pas, si des acteurs disent qu'ils ne participent pas, c'est leur responsabilité, malheureusement. Et tous les efforts, je suis convaincu de cela, seront faits par les facilitateurs pour les ramener dans le schéma, sur leur position, et leur donner les garanties nécessaires. Les garanties nécessaires, c'est quoi? C'est la transparence, c'est l'inclusivité, c'est la liberté de parole. Tout ça, c'est garanti d'avance.
Mais monsieur Samasekou, si Souleymane Dé, excusez-moi, monsieur. Oui, j'arrive. C'est pour mieux comprendre. Si Souleymane Dé et Maïga estiment que.
Vous posez la question après, je ne vous écoute pas.
Monsieur.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
Allez-y.
La grande question qui se pose aujourd'hui, voilà, s'il vous plaît, quand même, ne faites pas ça, sinon je sors du débat. Ce n'est pas correct, ça. Vous avez laissé les gens parler tout le long.
Monsieur Souleymane Dé, j'ai posé les mêmes questions de relance aux autres. J'ai posé les mêmes questions de relance aux autres. Allez-y.
Laissez-moi parler. Ça suffit. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la confiance. Et cela, ça a été dit au niveau des 3 jours. Si les gens ne se font pas confiance, on a beau chercher ce qu'on veut, on n'aura jamais la capacité de se retrouver. Quand même.
Je peux poser la question de relance? Maintenant, l'approche que vous avez soulignée tout de suite, Souleymane Dé, universitaire, et Ibrahim Ikassa Maïga estiment que cette approche n'est pas convaincante.
En quoi n'est-elle pas convaincante?
Alors, Souleymane Dé,
en quoi n'est-elle pas convaincante?
C'est à mon tour.
Allez-y.
Là où ce n'est pas convaincant, c'est quand tout autour de... Parce que moi, j'ai décliné notre position... Parce que les gens voudraient avoir une lecture cohérente de ce que nous avons posé comme acte, ok, depuis le début cette activité, ok, d'organisation de ce dialogue-là. Nous avons posé des actes phares avec des correspondances qui donnent notre position au fur et à mesure. Donc, je voudrais qu'on comprenne le fil conducteur de ce qui se passe. Maintenant, là où ça pose problème, c'est quand les autorités nomment un triumvirat. Mais à chaque discours officiel, interviennent pour poser des paramètres. Ça ne serait pas ça, ça ne serait pas ça. Non, laissez les participants en décider, décider de ce que ça va être. Ça ne serait pas une conférence nationale bise, ça ne serait pas un troisième tour, ça ne serait pas une transition. Mais bon Dieu, laissez le peuple décider de ce qu'il veut. Ce serait bien que ça soit ainsi. Et l'administration est aux ordres. Moi, j'étais directeur de campagne locale. J'ai vu ce que l'administration a fait en changeant bout par bout les résultats sortis des urnes. Cette administration, je l'en fais pas confiance.
Il va répondre par rapport à cette question que vous posez concernant le fil conducteur.
Donc, non, je viens.
Alors, Monsieur Samasekou, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Il va juste répondre à cette question.
Oui, vous régulez le débat ou pas?
Il demande, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Monsieur Samasekou, un débat, c'est comme ça, les gens parlent. Alors, est-ce qu'il y a un fil conducteur?
Le fil conducteur, moi, le fil conducteur, il le connaît lui-même mieux que quiconque.
Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs et aux téléspectateurs?
Le fil conducteur, ce sont les termes de référence. Les termes de référence qui ont été adoptés hier. Et Monsieur Ibrahima était un des rapporteurs des groupes qui ont discuté en long et en large librement, qui ont amendé, enrichi ces TDR-là. Et je tiens à dire par la même occasion que la question du contenu du débat ne sera pas orientée et n'a jamais été orientée. C'est ensemble que nous devons décider de ce que nous allons discuter. Tout est possible. Il n'y aura aucun sujet tabou. Ça a été dit dans la lettre de mission aux facilitateurs. Le porte-parole des facilitateurs au moment de leur installation l'a répété. C'est la parole qui va être donnée à chacun, pour que chacun parle, mais que chacun s'écoute. Et c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, on n'écoute pas. On n'écoute pas assez. La grande question, aujourd'hui, dans les termes de référence, toutes les problématiques du pays seront abordées. C'est pour ça que c'est un dialogue national.
Et quelles sont les différentes étapes qui vont suivre? Il y a les termes de référence qui ont été validés. Quelle est la prochaine étape?
Je termine d'abord.
Monsieur Samasekou, quelles sont les prochaines étapes?
Mais laissez-moi terminer ce point-là, c'est quand
même
important.
Mais monsieur, c'est un débat. Quelles sont les prochaines étapes?
Mais laissez-moi donner mon argument pour le débat quand même. J'ai entendu des intervenants dire qu'on va orienter les gens vers les réformes constitutionnelles, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Toutes les questions, la refondation de l'éducation, toutes les questions, la culture, toutes les questions vont être évoquées. Tout ce qui préoccupe les Maliens va faire partie de ce débat national. Voilà, ça c'est le point. Les prochaines étapes, mais ça c'est là. C'est pas à moi de les organiser. Il y a un comité national d'organisation qui est en charge. Il y a les facilitateurs qui ont en charge la mise en œuvre du contenu de ces TDR. Ils seront à la tâche pour pouvoir, dès maintenant, les TDR mis en forme vont être diffusés. Tout le monde pourra les connaître. Tout le monde, y compris vos invités autour de la table. Tout le monde verra à l'intérieur des termes de référence les grands axes qui vont être abordés dans le débat national, la manière de faire ces grandes, l'organisation à tous les niveaux, cercles, communes, au niveau national. Donc, tout est prévu dans les TDR. C'est transparent et ça ne va être caché à personne.
Merci, Samasekou. Souleymane Dié, avez-vous l'impression qu'il y a un fil conducteur autour de ce dialogue national inclusif?
Moi, j'ai bien peur des suites des débats. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour M. le ministre, j'ai quand même peur de ces tonalités qui me poussent à croire qu'on est plus dans l'intimidation des fois pour faire accepter certaines choses. Je pense que les Maliens attendent beaucoup de ces dialogues-là. Je dis bien, les Maliens attendent beaucoup de ces dialogues. Nul ne peut se l'approprier seul. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans cette situation parce que les acteurs du mouvement démocratique ont failli. Les Maliens attendaient beaucoup. De 91 à aujourd'hui, les attentes n'ont pas été comblées. Je ne dis pas que c'est la faute des X ou que c'est la faute des Y, je dis que c'est la faute des acteurs du mouvement démocratique. Si aujourd'hui, chacun s'accorde que le Mali est un État en crise et qu'il faudra sortir de la crise, Dieu merci, moi j'apprécie beaucoup cette posture du gouvernement qui considère déjà que seul, il ne peut plus. Alors, il y a un accord politique de gouvernance qui a été mis en place. Il y a aujourd'hui un triumvirat qu'on a. Je dis bien, nous ne s'arrêterons pas. On n'a pas le droit de nous arrêter aux personnes. Il faut aller dans les fonds. Si on invite tous les Maliens à se prononcer, j'ai dit, il y a eu des dialogues auparavant. Il y a eu les assises sur le Nord. Il y a eu les États généraux sur la décentralisation. Il y a eu la conférence d'entente nationale. Mais on a l'impression que ce sont des rencontres qui n'ont pratiquement servi à rien. Ou du moins, n'ont pas servi à grand chose. Il ne faudra pas que cette fois-ci encore, les résolutions de ce grand débat qu'on veut organiser ne servent à rien ou soient utilisées seulement pour des poudres aux yeux. Encore une fois de plus, je répète que l'universitaire que nous sommes, nous souhaitons être au cœur du débat. On ne demande pas à nous financer, nous on ne demande même pas d'argent. Mais le minimum, c'est que sur des questions importantes de la nation, le Mali doit au moins avoir un minimum de respect et de considération à ses universitaires.
Monsieur Maïga,
et c'est pourquoi je dis qu'il faut mener le débat.
Que faut-il aujourd'hui pour que ce dialogue national puisse atteindre les résultats voulus par les Maliens?
Je pense que j'avais commencé à évoquer les points qui constituent en fait les conditionnalités de notre participation au dialogue. Parce que hier, c'était que l'atelier.
Êtes-vous déjà prêt à participer à ce dialogue national?
Nous sommes prêts si la confiance revient. Notre position dénote de la faible conscience que nous portons aux engagements du régime en place. Parce que tant qu'à faire, c'est le régime qui serait chargé de mettre en œuvre ces résolutions. Le triumvirat, on a beau avoir confiance dans leur personnalité, dans leur qualité, ils se mettront de côté et c'est le régime, c'est l'administration centrale qui sera...
Mais n'est-ce pas normal que ce soit le régime qui organise?
Ne jugez pas... Le peuple malien, aujourd'hui, il y a une accalmie. Il y a une accalmie sur le front politique, sur le front social et autres. Mais c'est parce qu'il y a cette promesse de dialogue sincère. Et je pense que je regarde en coin, pas plus tard que le week-end dernier, ou un peu avant, le chef religieux Mahamoud Diko l'a évoqué. On attendra de voir ce qui en sortirait. Et c'est ce que nous, opposition, nous disons. C'est ce que les syndicats disent. C'est ce que les autres forces vives de la nation aussi disent.
Maintenant,
je dis qu'il faut restaurer cette... Il faut dire, laisser les gens librement aller parler de leurs problèmes et sortir des résolutions à mettre en œuvre, parce que quand même, c'est pour le Malien que ça doit être fait. Et c'est les Maliens qui discutent, c'est les Maliens qu'on appelle pour évoquer leurs problématiques. Maintenant, on a parlé de la révision constitutionnelle.
On va rester sur le dialogue national inclusif. Alors, à Monsieur Adama Samasekou, est-ce que toutes ces recommandations, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui des dispositions sont prises pour que ces personnes ou ces partis qui ne sont pas d'accord avec le processus puissent être mieux impliqués?
Vous savez, il n'y a pas d'autre disposition que d'inviter chacune et chacun à venir, y compris en discutant des conditions. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de conditionnalité qui empêche la participation. La grande question, c'est celle de la confiance. Moi, je l'ai dit aussi au nom de tous les participants dans mon propos hier. Tant que la confiance ne va pas être restaurée, nous ne pourrons rien faire ensemble. Donc, pour cela, en tout cas du côté du processus d'organisation du dialogue national, il est très clair, et Ibrahim Maïga était là, ça a été une des conclusions, c'est dans les TDR, ce sont les participants qui décideront du mécanisme de suivi des conclusions. Et les participants ont dit qu'ils souhaitent que ce soit un mécanisme indépendant. Le Premier ministre a garanti cela. Il n'a même pas besoin de le garantir. De toute façon, l'organisation même du débat est liée au fait qu'on cherche des solutions durables de sortie de crise au niveau de notre pays.
Dans ce contexte, êtes-vous optimiste quant à la réussite de ce dialogue national inclusif?
Avoir des interrogations quand j'entends un certain nombre de propos qui sont tenus autour de cette table, parce que si on met trop de préalables, les participants eux-mêmes ne viendront pas, donc ça ne sert à rien. Je pense que je profite de votre espace pour lancer un appel à toutes celles, à tous ceux qui vous écoutent, pour dire que en réalité, moi je peux témoigner, je crois que Ibrahim Maïga peut aussi témoigner, du fait que les TDR qui ont été adoptés hier sont en tout cas, des perspectives qui doivent mettre tout le monde en confiance.
Merci beaucoup, Monsieur Samasekou. Alors, Souleymane Dé, est-ce que vous avez confiance que ce dialogue national inclusif va être une réussite?
Bien sûr. En fait, on ne peut pas... Pour le moment, nous sommes restés sur notre faim, mais notre vœu le plus ardent, c'est que le gouvernement réussisse la marche de ce dialogue national.
Le processus est-il sur la bonne voie?
le processus, encore une fois de plus, c'était un niveau. Maintenant, comme il a dit le Premier ministre lui-même, c'est un second niveau qu'on va attendre. Et ce niveau-là, nous attendons cette fois-ci que les Maliens soient impliqués et nous attendons d'être impliqués.
45 minutes écoulées, le temps nous fait défaut. Merci Souleymane des juristes, professeur à l'Université de Bamako. Ibrahima Ikassa Maïga qui était là au nom du parti URD et de l'opposition. Et donc, merci également à Adama Samasekou, ancien ministre porte-parole des participants à l'atelier du dialogue national inclusif. À la régie vidéo et audio, toute l'équipe technique de Studio Tamani. Moi, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Gmoun.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.